Et moi, ça m'amène à vous parler de la 12e conférence scientifique annuelle sur le VIH qui a eu lieu à Brisbane, en Australie, avec toutes sortes de nouvelles. La première grande pandémie jamais déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Ouais, c'était pas la COVID, c'était bel et bien le VIH. À l'époque, on disait le sida. Une pandémie qui est toujours pas vaincue, même plus de 40 ans plus tard. Fin 2022, je vous donne des chiffres, il y avait 39 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont moi. Je le dis à chaque fois parce que je pense qu'on n'a pas, on se rend pas compte qu'il y a plusieurs personnes qui vivent avec le VIH et qui vivent très bien. Donc, je le dis, mais il y a d'autres qui vivent moins bien avec ça. 29,8 millions des personnes vivant avec le VIH dans le monde avaient accès en 2022 à un traitement antirétroviral, 76 %. Ça, c'est un traitement qui permet de supprimer la charge virale de la personne et d'avoir, de la réduire là, pour que ça soit plus transmissible et que la personne puisse avoir une vie normale ou presque. 76 %. Ça veut dire qu'il y a encore presque le quart des personnes qui vivent dans le monde avec le VIH qui n'ont pas accès à ces traitements. Et je pense que quand je dis ça, ça va faire réagir la personne qui m'attend au téléphone présentement. Il s'agit du docteur Jean-Pierre Routy. Bonjour, docteur Routy.
Oui, bonjour.
Alors, je vais juste vous présenter, Dr Routy, vous êtes quand même médecin traitant à la division d'hématologie et directeur des services des maladies virales chroniques au Centre universitaire de santé McGill. Vous êtes aussi de la chaire Louis Lowenstein, je pense, d'hématologie et d'oncologie à l'Université McGill. Alors, vous avez même écrit un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt il y a quelques années de ça, « Ce que le sida a changé ». Alors évidemment, vous avez suivi ce qui s'est passé à la conférence de Brisbane. Donc, qu'est-ce qu'on en retire là, au sujet des traitements là, pour le VIH et pour le sida?
Alors, les traitements qu'on a à l'heure actuelle sont très bons. La plupart, on a des pilules uniques qui contiennent soit deux ou trois principes actifs dans une seule gélule. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 15-20 ans d'être indétectable, comme vous l'avez dit. Donc, ça, ce sont des progrès qui sont excessivement positifs. Et surtout, ces nouveaux comprimés sont très puissants et ne permettent très rarement au virus de devenir résistant, de s'habituer aux médicaments. Donc, ça devient très, très rare. Et c'est donc très bon dans le sens où on peut continuer le même médicament longtemps s'il n'y a pas d'effet secondaire, alors que dans le temps, après un an, deux ans, trois ans, ouais, le médicament s'épuisait et il fallait changer et le virus devenait résistant. Donc ça, ce sont des progrès qui sont majeurs. L'autre progrès important, c'est qu'au lieu de prendre des médicaments tous les jours, on a l'option au Québec, et c'est remboursé par le gouvernement, c'est de faire des piqûres tous les deux mois au lieu de prendre un comprimé par jour. Alors c'est une option, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins bien, mais ça permet de ne pas y penser tous les jours et simplement de faire des piqûres, ce que j'appelle ça le traitement main libre. Mm-hmm. On n'a rien à prendre le soir ou le matin.
Oui, ça peut être bon pour certaines personnes qui ont peut-être parfois de la difficulté à se rappeler de prendre leurs médicaments aussi. À plus d'options qu'on a, le mieux c'est là, pour contrôler le VIH et la propagation du VIH.
Oui, tout à fait, parce que chaque personne désire un type de traitement. On peut avoir des moments de crise dans sa vie, de difficultés. Ici, à ce moment-là, c'est des piqûres qui sont supervisées, où on appelle la personne. Il y a quand même des systèmes par le téléphone pour rappeler aux dates fixes, parce qu'on ne peut pas non plus sauter plus de deux mois et demi la dose qui doit être injectée. Mm-hmm. Donc, ça permet à certaines personnes de ne pas avoir à trop s'occuper. Puis, on leur téléphone, et il y a une infirmière qui les contacte pour pas oublier. L'inconvénient, si on voyage, si on va en Afrique, eh bien, il faut repasser au traitement comprimé le temps du voyage, parce qu'on ne peut pas avoir très facilement ce médicament injectable dans certains pays. Donc, on retourne au comprimé. Ça demande un tout petit peu d'organisation, mais ce sont quand même des progrès très importants.
J'aimerais, Dr Routy, qu'on parle de ce fameux cas. Il y a un sixième cas de guérison du VIH, quand même six là, depuis quelques années. Ça veut dire quoi là, pour les gens qui espèrent peut-être voir un traitement curatif?
Alors, c'est à la fois très important pour la personne, dès que c'est faisable de guérir, alors qu'il y a quelques années, beaucoup nous disaient que c'était un rêve, que ça serait jamais possible pour des êtres humains. Donc, c'est possible. À l'heure actuelle, c'est très, très limité. En fait, le traitement est excessivement toxique. Il est fait uniquement chez des gens qui ont des cancers ou des leucémies ou des lymphomes. Et à ce moment-là, on change le sang. Et initialement, c'était une personne sur 500 ou 600 a un sang ininfectable par le VIH, ou tout au moins avec la souche dominante qu'on appelle CXCR5. Il y a des souches mineures qui existent, donc on peut quand même attraper la souche mineure. Et les greffes de moelle étaient faites avec un donneur dont le sang était ininfectable. Il était très très rare, c'est 1 sur 50 000, avec la compatibilité de la personne et d'avoir ce gène absent. Le cas présenté à Brisbane, en Australie, c'est un cas de la ville de Genève, et qui aurait eu une greffe de moelle, disons, normale, c'est-à-dire avec un sang compatible, mais pas avec l'absence de ce gène qui contribue à l'entrée du virus dans les cellules.
Alors, ah bon?
Les autres cas étaient uniquement avec des sangs ininfectables de donneurs, et là, après 22 mois, le virus n'a pas été retrouvé. Le seul tout petit hic, c'est que le patient guérit de son lymphome et peut-être de son VIH, continuez à s'exposer sexuellement, donc prenez de la PrEP et prenez un double médicament de Truvada pour pas attraper le VIH. Donc on a retrouvé quand même des médicaments anti-HIV dans son sang pour la prévention. Alors c'est très dur de trancher, est-ce qu'il est vraiment guéri ou est-ce que ce traitement de prévention avec simplement deux médicaments ont pu à certains moments bloquer le VIH, et c'est tant mieux. Mais la preuve absolue n'est pas encore là, mais c'est un très bon signe que c'est possible. Alors là, avec un sang naturel, compatible, qui est difficile à imaginer parce que beaucoup d'autres avaient échoué quand le médecin était obligé de traiter par ses greffes de moelle. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est faisable chez les êtres humains et que des endroits durs à atteindre, comme le cerveau, les testicules qui sont entourés de membranes, peuvent peut-être guérir du VIH. Donc en ça, c'est très important, mais ça ne nous guide pas pour tout le monde, parce que ces traitements sont très toxiques et on doit prendre des immunosuppresseurs pendant des années. Donc c'est un modèle qu'on observe, parce qu'on traite pour une leucémie, mais ça, on peut apprendre, mais ça ne permet pas de faire ça aux personnes qui sont en bonne forme et qui vivent avec le VIH.
Maintenant, la recherche se poursuit parce que ça fait quand même, il y a tout un mouvement mondial, dont ici au Canada et même à Montréal précisément, pour trouver justement, élucider le VIH et de trouver, espérons-le, un traitement curatif. On sait aussi que la COVID est venue un petit peu jouer dans les plans parce que beaucoup d'argent qui peut-être était destiné au VIH a été mis sur la COVID et on comprend pourquoi. Est-ce qu'on a rattrapé le retard et est-ce qu'on va y arriver?
Alors, en effet, c'est pas juste l'argent qui a été là, mais beaucoup de personnes impliquées dans les soins,
tout à fait, oui.
Des personnes VIH se sont occupées du COVID et donc ont moins été présents, au moins dans les recherches. Et beaucoup de recherches étaient interdites au CHUM ou à McGill. On ne pouvait faire des recherches que sur le COVID. Autrement, par sécurité, tous les chercheurs et leurs employés devaient rester à la maison, ce qui était évidemment pas très bon pour le VIH. Alors, je pense pas qu'on ait encore rattrapé le retard, probablement cette année. Les bonnes nouvelles qu'on a apprises grâce au COVID, c'est qu'il y a des anticorps anti-COVID qui durent 6 mois, que l'on peut injecter, et ces anticorps anti-VIH commencent à être utilisés grâce à la technologie développée lors de la COVID. Donc ça, c'est un plus. Et on a quelques personnes, 10, 12, qui ont pu, pendant 6 mois, avoir une injection d'anticorps et rester indétectable pendant 6 mois, le temps de la durée de vie de l'anticorps. Ah. Par contre, cet anticorps ne va pas pour tout le monde. Il faut bien sélectionner les personnes. Alors, ce n'est pas une réponse pour aujourd'hui, mais ça montre que l'on peut traiter par l'immunologie, par les forces directement sur la structure du virus et pas par un médicament, mais des anticorps qui, dans le passé, durer 3 semaines, peuvent durer de 3 à 6 mois pour le VIH. Et là, les premières études montrent quelques résultats qui ne sont pas suffisants à la commercialisation, mais qui montrent qu'on a accroché quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire auparavant.
Et il y a eu aussi cette information. Il y avait beaucoup d'informations qui ont sorti. J'ai fait le tour ce week-end, puis je me disais, oh mon Dieu, on n'a pas le temps de discuter de tout ça. Mais il y en a un qui vous tient à cœur, c'est le traitement anti-cholestérol qui serait 2 fois plus efficace chez les personnes vivant avec le VIH.
Oui, c'était la grande étude Reprieve, dont les centres montréalais ont participé, ont suivi des personnes ayant le VIH avec peu de facteurs de risque. Il fallait justement être peu à risque de maladie cardiaque et de prendre une statine, un anticholestérol, pendant en moyenne 5 ans et demi, dont l'étude a commencé il y a 7 ans. La majorité des 8200 patients sur la planète, donc c'est 25 à 30 pays qui ont participé, ont montré de façon très encourageante que la baisse du cholestérol, qu'on appelle le LDL, le mauvais cholestérol, avait baissé. Et au lieu d'avoir les 15 à 17% de bénéfices sur moins d'infarctus, moins de décès, moins de maladies, moins d'accidents vasculaires cérébraux, on a eu 33%, donc on a eu le double de ce qui était attendu par la baisse du cholestérol. Chez des gens à risque faible et modéré, alors ça veut dire que les anticholestérol ont un effet en dehors des lipides, qui est bénéfique plus chez les personnes qui ont le VIH que dans la population générale. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une très bonne nouvelle. Et là, on va discuter entre nous, pour le Québec, est-ce que tous les gens de plus de 40 ans qui ont le VIH doivent-ils prendre ou pas des anticholestérol beaucoup plus tôt que s'ils n'avaient pas le VIH?
Ouais, ça sera des discussions à avoir. Il y a tellement de choses importantes qui sont sorties de cette conférence. Je suis vraiment content qu'on ait eu la chance de vous recevoir parce que je vous sais très occupé d'avoir eu la chance de vous recevoir à cette émission. Et certainement qu'on va vous réinviter, Dr Jean-Pierre Routy, donc médecin au Centre universitaire de santé McGill. Merci.
Merci beaucoup.